Radio Okapi.
Le journal présenté par Noël Alouzi Toukabambi.
Félix Tshisekedi et Paul Kagame réaffirment leur engagement pour la paix. Ils ont eu un tête-à-tête hier à Doha au Qatar en présence de l'émir tchèque Tamim bin Hamad Al Thani. Les échanges ont porté sur la pacification de l'Est de la RDC selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Quatre personnes dont un bébé ont été secourues hier de justesse d'un incendie grâce à l'intervention de voisins. L'incident s'est passé dans un immeuble de deux étages au petit marché Kato sur l'avenue Bokassa, ici à Kinshasa. Trésor Kibangula est l'invité de ce journal. L'analyste politique et directeur du pilier politique à l'Institut de recherche Ebouteli va faire une analyse sur la crise sécuritaire en RDC. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont rencontrés hier mardi à Doha au Qatar dans le cadre d'une réunion trilatérale organisée par l'émir tchèque Tamim bin Hamad Al Thani. Selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères du Qatar, les discussions ont porté sur la pacification de l'Est de la RDC. Les chefs d'État ont salué les avancées des processus de Luanda et de Nairobi ainsi que celles du sommet conjoint EAC-SADC du 8 février 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie. Ils ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et ont convenu de poursuivre les discussions entamées à Doha afin de poser les bases d'une paix durable dans le cadre du processus désormais fusionné Luanda-Nairobi, affirme la déclaration. S'agissant des négociations directes gouvernement congolais M23, le ministère des Affaires étrangères de l'Angola indique que c'est pour des raisons et circonstances d'une force majeure qu'il n'a pas été possible de réaliser hier à Luanda la rencontre prévue entre le gouvernement de la RDC et le M23. C'est ce qu'indique un bref communiqué de la présidence angolaise publié hier mardi dans la soirée. Par ailleurs, le gouvernement de la République d'Angola, en qualité de médiateur, dit continuer à fournir tous les efforts pour que la réunion ait lieu à temps, réaffirmant que le dialogue reste la seule solution durable pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. À propos de toutes ces négociations, à savoir la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame hier à Doha, ainsi que des pourparlers de Luanda entre Kinshasa et le M23, la porte-parole du chef de l'État congolais affirme que tout ce qui importe à la RDC, c'est l'obtention du cessez-le-feu ainsi que son engagement à respecter les initiatives de paix. Tina Salama est au micro de Grace Amzati.
Il est important de souligner ici que c'est sur initiative, en tout cas, de son Altesse, cher Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, qui est un grand ami, en tout cas, à la République démocratique du Congo, avec le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Et c'est, comme le dit le communiqué, en tout cas, dans le cadre des efforts visant à trouver des solutions dans la partie Est de notre pays. Alors, le plus important pour nous ici est de noter que nous avons pu obtenir un cessez-le-feu immédiat. Et c'est tout ce qui importe, en tout cas, à ce stade, au président Félix Tshisekedi. Donc, les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties un cessez-le-feu immédiat et surtout inconditionnel. Alors, les discussions entamées à Doha vont bien évidemment se poursuivre afin de consolider les processus de Nairobi et Luanda auxquels nous tenons. Alors, vous le savez, parallèlement à Luanda, la médiation a annoncé cet après-midi que la rencontre prévue n'a pas eu lieu. Mais comme nous l'avions annoncé depuis hier, nos délégations étaient sur place. C'était dans la capitale angolaise, sur invitation du médiateur, le président João Lourenço. Alors, notre délégation a été composée des hauts fonctionnaires de l'État, en tout cas, services et armées. Ils ont été signifiés seulement aujourd'hui de l'absence de l'autre partie, ce qui ne nous a pas beaucoup surpris en tout cas, à la médiation donc de tirer toutes les conclusions et nous attendons d'être informés de la suite du processus.
La conséquence de l'échec du dialogue prévu à Luanda entre le M23 AFC et le gouvernement congolais peut être l'aggravation des tensions militaires sur le terrain. C'est ce que pense Trésor Kibangula, analyste politique et directeur du pilier politique à l'Institut de recherche Ebouteli. Il estime alors qu'il est nécessaire que les deux parties en conflit définissent clairement leurs objectifs afin de se retrouver sur la table des négociations pour une désescalade de la crise. Trésor Kibangula est joint par Grace Amzati.
C'est très difficile aujourd'hui parce qu'on n'a pas une clarté. Donc peut-être la solution viendra d'une clarification des objectifs de chaque acteur et aussi d'une réelle volonté politique. Pour Kinshasa, il est aujourd'hui impératif d'avoir un plan cohérent des sorties des crises parce qu'il ne suffit pas d'aller à Luanda. Est-ce qu'aujourd'hui on a travaillé sur notre vision de paix? qu'est-ce qu'on va mettre sur la table, jusqu'où on peut aller en termes des concessions à faire au M23 ou à Kigali. Et surtout, Kinshasa doit cesser d'être uniquement dans une posture de réaction. C'est pourquoi j'ai apprécié ce qu'on a appelé revirement, mais c'est une tactique qui a peut-être aussi un peu dérouté le M23 ou Kigali, de voir finalement un gouvernement qui refusait de dialoguer directement venir à Luanda. Le M23 ne va pas non plus rester indéfiniment dans les refus de dialoguer. Il a refusé, il a mis des prétextes sur la table parce qu'il a un rapport des forces militaires. La situation sur le terrain pourrait évoluer en fonction peut-être des sanctions qui sont en train de tomber sur le Rwanda. Peut-être que ça pourrait rééquilibrer les rapports des forces même sur le terrain militaire et pousser aussi le M23 à venir sur la table de négociation.
Sur le terrain dans l'est de la RDC, les combats continuent de faire de victimes parmi les civils et de provoquer des déplacements de population. C'est ce qu'affirme le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Lors de son briefing de presse hier mardi à New York, il a indiqué que les violences dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu obligent les populations à fuir vers les provinces voisines du Maniema, du Tanganyika et de la Tchopo. La présence des travailleurs humanitaires dans ces provinces reste très limitée et le besoin humanitaire n'a pas été satisfait depuis longtemps en raison d'un manque de financement. Plus de détails avec vous, Grâce Amzati.
Selon l'Organisation des Nations Unies, dans la province du Maniema, jusqu'au 14 mars dernier, plus de 5000 personnes ont traversé le territoire de Lubutu depuis le territoire de Walikale au nord Kivu, s'ajoutant aux 8000 personnes déjà arrivées à Lubutu depuis le début du mois de janvier. Au sud Kivu, des affrontements dans les territoires de Walungu la semaine dernière ont tué 6 civils et forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir leurs maisons. Par ailleurs, au nord Kivu, 15 000 personnes sont retournées dans les villages de la région de Rwanguba, dans les territoires de Rutshuru, depuis la fin du mois de janvier, souligne l'ONU. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA et ses partenaires, s'évertuent à répondre aux besoins urgents dans les domaines de la santé, y compris la santé mentale, et de fournir des articles ménagers essentiels et de la nourriture. L'ONU note l'étendue géographique actuelle des positions du M23, qui aurait été aperçue à 75 km au nord-ouest d'Uvira. La MONUSCO continue pour sa part de protéger les civils dans la partie grand nord du Nord Kivu et dans la province de l'Ituri où 60% de la force reste déployée, conclut le porte-parole du secrétaire général.
De son côté, Amnesty International soutient aussi que, je cite, « les violations endémiques des droits humains imputables au groupe armé M23 appellent une action internationale concertée ». Dans un communiqué rendu public hier mardi dans la soirée, Amnesty International affirme que, depuis qu'il s'est emparé de la ville de Goma en janvier, le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda a effectué des descentes dans des hôpitaux, enlevé des patients dans leurs lits, dont des civils et des soldats congolais hospitalisés, et les a soumis à des actes de torture. Amnesty International dit avoir également recueilli des informations sur des cas de viols collectifs commis par le M23 ainsi que sur des mauvais traitements infligés à des défenseurs de droits humains après la prise de Goma le 27 janvier et de Bukavu le 16 février. Elle engage la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, l'Union européenne et d'autres acteurs internationaux à redoubler la pression sur toutes les parties au conflit afin qu'elles protègent les populations civiles et traite les personnes détenues avec humanité conformément au droit international humanitaire. Le président de la République attend de son gouvernement des mesures proactives, audacieuses et concertées pour favoriser le développement économique et attirer les investissements au pays. Dans son adresse lors du dernier Conseil des ministres, le chef de l'État souhaite que le parcours de l'investisseur, de l'entrepreneur en RDC soit déblayé d'embûches liées notamment à la multiplicité des structures administratives intervenant dans le processus d'investissement, au poids de la bureaucratie et à l'insuffisance des infrastructures de base afin de rendre le secteur privé plus compétitif. Billy Yvan Lutumba revient cependant dans ce reportage sur quelques réalités assez difficiles, souvent rencontrées sur le terrain par les investisseurs. Suivez.
Le principe de l'État congolais est que tout investisseur qui souhaiterait créer son entreprise en RDC gagne en temps en s'adressant au guichet unique de création d'entreprise. Et selon la procédure générale, après le dépôt des documents nécessaires, le coût de création d'entreprise pour une personne physique est de $30. Pour une personne morale, le coût varie entre $90 ou $70 selon les cas. Le délai fixé pour le traitement du dossier est de 3 jours. Si certaines de ces dispositions sont quasiment respectées, les inquiétudes sont aussi diverses à en croire Alexandre Tchoula, DG d'une société privée privé en import-export.
La lourdeur d'obtenir le certificat ARSP, personnellement, j'ai des partenaires qui sont intéressés à venir créer des entreprises en partenariat avec nos sociétés, mais ils craignent cette lourdeur parce que ça n'inspire pas confiance. Et du côté de guichet unique de création des entreprises, et du côté de l'ARSP, la façon dont les entreprises, les sous-traitants sont gérés par l'ASP, il y a beaucoup de plaintes.
Ici, de noter que le guichet unique de création d'entreprise n'est pas encore installé sur toute l'étendue du pays. Pour pallier à cette carence, les tribunaux de commerce et, le cas échéant, les tribunaux des grandes instances octroient le registre des commerces et de crédits mobiliers qui confère à l'entreprise le droit de poser les actes de commerce. Ainsi, c'est au vu de ces quelques réalités que le chef de l'État interpelle les ministères sectoriels d'engager une réflexion approfondie afin de mieux servir les intérêts des investisseurs et des entrepreneurs.
La province de la Tchopo regorge des grandes étendues de forêts, mais sa population ne bénéficie pas du crédit carbone. En cause, le manque d'informations nécessaires pour y accéder. C'est pour contourner cette difficulté que s'est tenue le lundi à Kisangani une séance de sensibilisation des députés provinciaux afin d'envisager des mécanismes qui peuvent aider à capter ces fonds au niveau international. Cette conférence a été co-animée par le député national élu de Kisangani, Ladislas Yangotikala, président de la sous-commission environnement à l'Assemblée nationale, Emmanuel Schneider, un ingénieur agroforestier allemand. Un reportage de Jacques Moukonkole.
Des travaux de conservation des forêts appuyés par diverses organisations et coopérations internationales n'ont permis jusque-là aux communautés locales d'accéder au crédit carbone. Cependant, certaines sociétés forestières sont en passe d'en bénéficier alors qu'officiellement elles étaient déjà tombées en faillite. Ladislas Yangotikala dit avoir sensibilisé les autorités et les députés provinciaux sur le mécanisme de captage de ces fonds.
Le gouvernement provincial n'en bénéficie pas. Et Schneider, moi, le président de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, les gouvernements provinciaux et le ministre des Finances a mis à la disposition de Manuel son conseiller climat pour que cette question soit minutieusement traitée.
Pour sa part, Manuel Schneider, un agroforestier allemand, propose la diversification de l'agroforesterie afin qu'elle puisse dégager au maximum les revenus pour les populations locales.
Le modèle que je propose est peut-être plus complexe avec plusieurs strates en fait arbustives et une intégration de ce qu'on pourrait appeler la culture vivrière et les cultures à haute valeur ajoutée comme les cultures de plantes à huiles essentielles. Moi, je ne suis là que pour essayer d'améliorer le système.
Au terme de cette sensibilisation, les députés provinciaux se disent prêts à initier des édits nécessaires devant faciliter un accès aisé au fonds carbone pour le développement de cette entité. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Une famille de 4 personnes dont un bébé a été sauvée de justesse d'un incendie grâce à l'intervention des voisins. Cela s'est passé hier mardi matin lors d'un incendie survenu dans un immeuble de 2 étages au petit marché Kato sur l'avenue Bokassa, à la frontière entre les communes de Kinshasa et de Barumbu. Voisins, vendeurs et passants se sont mobilisés, ils ont pu placer une échelle et casser le mur pour les extraire. Pas de perte en vie humaine donc, mais on signale un blessé et d'importants dégâts matériels. Mais presque tout a été consumé dans certains magasins d'habillement situés plus bas dans l'immeuble. Suivez ces témoignages recueillis sur place par Trio Banzé.
L'effet est parti d'une cigarette jetée par mégarde par une personne près des escaliers où les gardiens gardent les réserves de carburant du groupe électrogène. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Les 4 personnes qui se trouvaient dans l'appartement à l'étage ont pu être sauvées grâce à l'intervention du voisinage. Il n'y a qu'un papa qui a eu de brûlures d'eau. C'est l'eau qui stagne dans la parcelle quand il pleut qui a servi à éteindre le feu. La population a vraiment contribué à sauver ces personnes. Le feu a commencé depuis 7 heures. L'intervention des pompiers n'est venue qu'à 10 heures. Ce sont les commerçants qui ont perdu beaucoup de marchandises. Le magasin de mon beau-frère a aussi brûlé dans cet incendie. Il faut que l'État trouve une solution parce que si l'électricité est permanente, les gens n'allaient pas commencer à utiliser les carburants.
Au Congo central, 89 détenus de la prison centrale du camp Molaï à Matadi ont bénéficié hier d'une liberté conditionnelle sur décision du ministère de la Justice et garde des Sceaux. Cette mesure vise à humaniser le système carcéral via le désengorgement des prisons et l'amélioration des conditions carcérales, y compris la réinsertion sociale des prisonniers. Le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, qui s'est rendu personnellement dans ce centre pénitentiaire pour superviser cette libération, en a aussi profité pour se rendre compte des conditions carcérales dans cet établissement pénitentiaire.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, Idriss Abari, le secrétaire national du mouvement politique Sens, a été enlevé. Figure du mouvement politique Servir et non se servir, Idriss Abari a été interpellé sans aucun motif officiel par des individus se présentant comme des gendarmes hier à la mairie de la commune de Saaba, en banlieue de Ouagadougou. En début de semaine, Sens avait dénoncé les récents massacres des civils Peul à Solenzo, dans l'ouest du Burkina Faso, attribués à l'armée burkinabé et à ses supplétifs.
L'invité.
Notre invité est Trésor Kibangula, analyste politique et directeur du pilier politique à l'Institut de recherche Ebouteli. Il fait une analyse sur l'échec des négociations de Luanda et sur la suite des événements sur la crise sécuritaire en RDC. Trésor Kibangula s'entretient avec Grâce Hamzati.
Trésor Kibangula, bonjour.
Bonjour.
Le M23 s'est retiré des négociations qui étaient prévues à Luanda en Angola. Quelle analyse faites-vous de cette décision des dernières minutes de la rébellion?
C'était un revirement qui n'est pas totalement surprenant parce que officiellement, c'est vrai, le M23 justifie son retrait par les sanctions européennes qui sont tombées la veille de ces rendez-vous de Luanda et qui ont visé plusieurs de ses responsables ainsi que des cadres militaires rwandais. Mais en réalité, lorsqu'on regarde de près, cela traduit surtout une position des forces parce que le M23 estime qu'il n'a aucun intérêt aujourd'hui à s'engager dans des négociations sans garantie solide sur ses revendications, tant que la situation militaire lui sera favorable sur le terrain. Il peut donc se contenter et se permettre d'attendre et de faire monter les enchères. Je pense qu'il faut aussi noter que cette annulation, vous avez dit, de dernière minute, est une manière d'exposer les contradictions de Kinshasa. Comme vous le savez, depuis des mois, le président de la République, Félix Tshisekedi, refusait catégoriquement toute négociation directe avec les M23. Mais aujourd'hui, avec la pression diplomatique sur Kigali, mais aussi cette pression diplomatique qui continue à dire au gouvernement congolais d'ouvrir un espace de discussion, le président Tshisekedi a dû revoir sa posture. Les M23 profitent donc de cette volte-face de Kinshasa pour montrer que c'est le gouvernement qui court après les négociations et non l'inverse.
Et malgré ces refus par les M23, le gouvernement congolais a confirmé sa participation et d'ailleurs sa délégation s'est même rendue à Luanda, sachant que l'autre partie s'était déjà retirée. Comment expliquez-vous cette attitude de Kinshasa?
Ouais, c'est une position très délicate parce que le pouvoir a longtemps martelé, comme je disais, qu'il ne négocierait pas avec les rebelles. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est de montrer que Kinshasa n'est pas l'obstacle à la paix et que c'est l'autre partie qui refuse de venir discuter. Donc d'abord, c'est une question d'image pour Kinshasa. Ensuite, je pense aussi que c'est un pari tactique parce que en restant dans les processus, le gouvernement congolais garde une porte ouverte tout en laissant la responsabilité de l'échec de cette discussion de Luanda au M23. La communauté internationale va voir encore une fois, comme en décembre, que c'est Kigali qui n'est pas venu. Le président rwandais n'était pas venu au rendez-vous de décembre. Et cette fois-ci, le rendez-vous de mars, c'est le M23 qui n'est pas venu.
Et comment entrevoyez-vous la suite des événements?
Alors, à court terme, je pense qu'on risque de voir une recrudescence des tensions. On a vu que des combats ont rapidement repris. Même le cessez-le-feu n'a pas tenu. Le M23, je pense qu'il ne va pas s'arrêter tant qu'il n'aura pas atteint ses objectifs. Et du côté congolais, l'armée cherche à stabiliser ses positions, mais on constate aussi sur terrain qu'elle n'a pas encore réussi à reprendre l'initiative militaire. Ce qui sera intéressant à surveiller, je pense, c'est surtout le côté diplomatique. Qu'est-ce qu'il va faire l'Angola? Est-ce qu'elle va tenter de sauver cette initiative de Luanda en relançant des consultations avec les parties prenantes? Mais je pense qu'aussi, nous sommes dans un engrenage de médiation avec ce qui se passe au niveau de ce qu'on appelle processus fusionné et ACSADC. Et cette initiative parallèle de Luanda, est-ce que chaque acteur de la région croit à un processus donné? Et je pense qu'il y a quelque chose à éclaircir là-dessus. La crise, la sortie des crises à la République démocratique du Congo mérite un peu plus de clarté pour s'en sortir.
Et selon vous, quelle peut être aujourd'hui la perception du président de l'Union africaine désigné médiateur face à ces blocages?
Alors, c'est le président angolais Lorenzo. Je pense qu'aujourd'hui, il se trouve dans une situation question un peu des fragilités. Il a parié sur cette initiative de Luanda pour forcer un peu la main aux partis en les ramenant à la table des négociations. On pensait qu'il avait réussi, mais à la dernière minute, le M23 lui a posé ses refus nets. Donc je pense que l'Angola aujourd'hui et son président risquent donc d'être perçus comme des acteurs un peu isolés dans ces processus, parce que lorsqu'on regarde le communiqué de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'EAC et SADC à Harare hier, on remarque qu'on a beaucoup plus mis en avant ou pointé un chevauchement des médiations et des conflits de compétences. Et c'est là, je pense, affaibli le président Lorenzo et réduit même les marges de manœuvre de l'initiative de l'Angola. Alors, si le médiateur angolais veut encore peser, il devra repositionner son initiative, essayer de convaincre Kinshasa et Kigali d'accepter un cadre plus inclusif, sans quoi son rôle risque d'être marginalisé.
Trésor Kibangula, je vous remercie.
Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal qui arrive à la fin. À la mise en onde, c'est Debsivita. À la présentation, Noëlla Luzitu Kabambi. Un journal coordonné et supervisé par Pelé Kipelamundo.